de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Aujourd'hui, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie dirige une réunion du comité de développement et de la propriété intellectuelle. Le gouvernement indonésien encourage la pensée out of box, a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie au Royaume-Uni. Le Conseil des ulémas indonésiens, ou MUI, suggère à Loki d'amener l'Israël devant la Cour internationale. Zéro kilomètre indonésien, à Sabang est choisi la destination touristique la plus unique. L'ambassadeur d'Indonésie a remis le prix Prima Duta à une entreprise suisse. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleib a de nouveau présidé une réunion du Comité de développement et de la propriété intellectuelle, ou CDIP. La 24e session du Comité de développement et de la propriété intellectuelle s'est tenue au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, Suisse, du 18 au 22 novembre 2019. Ont été participés par des délégations de 192 pays membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le directeur général de l'OMPI. L'ambassadeur Kleb, dans ses remarques en tant que président de la session, a déclaré dans la publication de représentants permanents de la République d'Indonésie samedi que la propriété intellectuelle est une des clés du succès du développement social, économique et culturel. Dans ce cas, à travers du Comité de développement et de la propriété intellectuelle, tous les pays membres et parties prenantes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle devraient continuer à apporter leur contribution et à trouver des solutions aux divers problèmes liés à la propriété intellectuelle et au développement. Sous la direction de l'Indonésie, cette fois-ci, le Comité de développement et de la propriété intellectuelle a réussi à définir divers ordres du jour entravés depuis longtemps, y compris a convenu de la tenue d'une conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement en 2021 sur le thème « Innovation dans les technologies vertes pour le développement durable ». L'ambassadeur d'Indonésie au Royaume-Uni, Rizal Sukma, a déclaré l'engagement du gouvernement indonésien d'encourager la pensée créative et innovante afin d'accroître la capacité des ressources humaines en Indonésie. Le président Joko Widodo a montré cet engagement en nommant le ministre de l'Éducation et de la Culture parmi les hommes d'affaires, des incitations pour l'investissement et à recruter du personnel spécialisé appartenant au groupe du millénaire. Cela a été déclaré par l'ambassadeur Rizal Sukma en marge du sommet sur les affaires en Asie, en Irlande, dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Londres, reçue samedi. Devant environ 30 hommes d'affaires ayant assisté à la discussion restreinte, Rizal a souligné l'importance du développement des ressources humaines dans l'orientation stratégique des politiques indonésiennes au cours des 5 prochaines années. Se concentrer sur ce secteur est important étant donné que la capitalisation de l'innovation et de la créativité devient à son tour le principal moteur de la concurrence et la croissance économique de l'Indonésie. Le Conseil des Ulama indonésiens, ou MUI, a suggéré que l'Organisation de la coopération islamique d'amener l'Israël devant la Cour internationale parce que, d'après MUI, jusqu'à présent, aucune partie n'a amené l'Israël à la Cour internationale de justice. Le président de la Division des relations extérieures de MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, a déclaré samedi dans republica.co.id que jusqu'à présent, aucune partie n'avait encore conduit Israël devant la Cour internationale de justice. La Gambie, au nom de Loki, a récemment amené le Myanmar devant la Cour internationale de justice pour ses actions contre le groupe ethnique Rohingya. Il devrait y avoir un pays au nom de Loki qui a mené l'Israël devant la Cour internationale de justice. Si Loki a réussi à mener Myanmar devant la Cour internationale de justice, la prochaine étape de Loki devrait être d'amener l'Israël devant la Cour internationale de justice. Parce que Israël a violé les droits de l'homme, expulsé, tué et exécuté des Palestiniens. C'est une violation grave des droits de l'homme. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La région de 0 km d'Indonésie dans la ville de Sabang, la province d'Aceh, a été choisie comme destination touristique la plus unique dans l'événement du Prix du Tourisme Indonésien ou API en 2019, organisé par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative. Le maire de Sabang, Nazaruddin, qui a reçu le prix à Jakarta vendredi soir, a déclaré qu'après Sabang, la deuxième attraction touristique la plus unique est la destination touristique de la grotte de Mabala dans la région de Sabu Raijua et la troisième est le lac de Kaolin dans la région de Bangka Central. Le maire de Sabang, Nazaruddin, a déclaré que ce prix était devenu une force motrice pour le gouvernement de la ville de Sabang à continuer à innover et travailler dans le but d'accroître le nombre de touristes locaux et étrangers sur l'île de Weh. L'ambassadeur d'Indonésie à Berne, Mulyaman D. Hadad, récemment a remis le prix Prima Duta 2019 à une entreprise suisse spécialisée dans le commerce de café, Blasir. L'ambassade d'Indonésie à Berne, dans sa déclaration reçue à Jakarta samedi, a indiqué que l'événement a été assisté par des membres de la coopérative de café de Bali, une délégation du ministère de coopérative et les petites et moyennes entreprises, l'ambassadeur d'Indonésie auprès de l'OMC et l'attaché commercial indonésien à Genève. Le prix Prima Duta est une forme d'appréciation du gouvernement indonésien envers les sociétés étrangères qui ont importé des produits indonésiens. Cette année, les prix Prima Duta ont été remis aux 45 entreprises de 31 pays. Blasir Trading AG est l'un des lauriers. Blasir est une société suisse vendant du café indonésien, notamment du café Gayo originaire d'Aceh dans le nord de Sumatra, dans divers supermarchés suisses. Le café est l'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers la Suisse en raison d'une demande croissante. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le gouvernement prend les investissements étrangers ». Un certain nombre de ministres indonésiens ont saisi de manière agressive les opportunités d'investissement des entreprises. Il a également émis des engagements d'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Par exemple, après que l'OTE Chemical de Corée du Sud s'est engagé à investir 4,3 milliards de dollars soit environ 60 000 milliards de rupiah, pour l'agrandissement de l'usine pétrochimique de Bantan. LG Chemical et SK Group, du même pays, ont également exploré les possibilités d'investissement en Indonésie. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré mercredi à Séoul, en Corée du Sud, que les deux sociétés géantes sud-coréennes, LG Chemical et SK Chemical, investissaient en Indonésie. Là, Agus Gumiwang a tenu une réunion avec les dirigeants de LG Chemical et du groupe SK. Il a déclaré aux médias que LG Chemical était intéressé par la construction d'une usine de batteries intégrées d'une valeur de 2,3 milliards de dollars américains. L'usine produira des cellules de batteries, des modules de batteries et des installations de recyclage de batteries. La direction de LG souhaite également mener des études sur l'utilisation des batteries de moto électrique pour soutenir l'utilisation de véhicules écologiques. Dans le même temps, le groupe SK recherche des partenaires locaux pour construire et développer l'industrie pétrochimique. Le SK a choisi l'industrie pétrochimique parce que l'Indonésie importe toujours beaucoup de résultats de l'industrie pétrochimique. Le ministre de l'Industrie a déclaré que la demande de produits pétrochimiques pour les industries en Indonésie atteint 60% et que la plupart d'entre eux sont des produits importés qui les satisfont. Même sur 6 millions de tonnes de matières premières pétrochimiques nationales, la production nationale ne peut couvrir que 2 millions de tonnes. Eric Tohir, ministre des Entreprises d'État, a visité le Japon mardi pour rencontrer le ministre japonais des Affaires économiques et fiscales, Yasutoshi Nishimura, afin de discuter de l'augmentation des investissements dans divers secteurs et des possibilités de coopération économique. Dans une déclaration écrite, mercredi, a déclaré Eric, le Japon investit régulièrement dans des projets stratégiques tels que les centrales électriques, les routes à péage, le MRT et le logement. Maintenant est le moment de renforcer la coopération. L'Indonésie doit collaborer dans le domaine de la technologie et améliorer ses compétences en ressources humaines. Au contraire, de grands hommes d'affaires japonais, membres de l'Association Japon-Indonésie, ont rencontré le président Joko Widodo au Palais Merdeka à Jakarta mercredi dernier. Ils sont dirigés par son chef, qui est également un ancien premier ministre du Japon, Yasuo Fukuda. Lors de la réunion, le président Joko Widodo était accompagné du ministre de la Coordination de l'Économie, Airlangga Hartarto, du ministre des Affaires étrangères, Reto Marsudi, du ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, et du ministre des Travailleurs publics et du Logement public, Basuki Hadimulyono. Lors de la réunion, le ministre Basuki a déclaré que des hommes d'affaires japonais souhaitaient participer à la construction de nouvelles capitales à Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, à Kalimantan de l'Est. Le président Joko Widodo a bien accueilli le souhait. Tandis que le président Joko Widodo a expliqué la coopération des deux pays du bloc Masela à Maluku. La délégation japonaise a assuré que la portion de contenu local du bloc Masela soit conforme à la demande du gouvernement, y compris à l'utilisation de main-d'œuvre locale. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 24 novembre. On commence par le 24 novembre 1991, la mort de Freddie Mercury. Freddie Mercury était chanteur et auteur-compositeur, producteur de disques et chanteur principal du groupe rock Queen. Il était allé qui est décédé le 24 novembre 1991. Il était l'un des meilleurs chanteurs de l'histoire de la musique populaire. Mercury s'est également classé 18e sur la liste des 100 meilleurs chanteurs par Rolling Stone en 2008 et s'est classé 2e sur la liste de choix des lecteurs de Rolling Stone en 2011. AllMusic a décrit Mercury comme l'un des meilleurs chanteurs de rock de tous les temps, avec l'une des meilleures voix dans tous les types de musique. La La suite, le 24 novembre 2013, l'Iran a signé un accord de pays, P5+1. Les relations entre Iran et l'Union européenne étaient tendues au début de 2010 en raison d'un différend sur le programme nucléaire iranien. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran pour la controverse de son programme nucléaire. Les représentants des pays du groupe P5+1 sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France et la Russie. Les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que l'Allemagne et l'Iran, se rencontraient pendant 4 jours à Vienne pour discuter cet important accord qui vise à arrêter le programme nucléaire iranien. On a considéré que l'accord conclu le 24 novembre 2013 était le début d'un accord global visant à apaiser les inquiétudes occidentales selon lesquelles l'Iran tentait de développer des armes nucléaires, et l'Iran le niait. Depuis lors, ces pays ont poursuivi leurs négociations jusqu'à ce qu'ils aient finalement convenu d'accepter le cadre de base du plan d'action global commun du GGPOA en avril 2015. Le 24 novembre 2015, abattage du Russe Sukhoi Su-24. Le 24 novembre 2015, l'avion Russe Sukhoi Su-24 a été abattu par l'avion F-16 de l'armée de l'air turque près de frontières syriennes et turques. Selon les Turcs, l'avion aurait été abattu dans l'espace aérien turc où il aurait traversé le territoire turc jusqu'à 2,19 km. Ou 1,36 000 pendant 17 secondes et aurait été rappelé 10 fois. La Russie niait que l'avion quittait l'espace aérien syrien. Selon les données satellitaires militaires russes, l'avion a été abattu en territoire syrien. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la chanson intitulée Nanana, chantée par Bayu Risa. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour vous, chers auditeurs, la rubrique suivante, voici mon Indonésie. Bonsoir à tous. Mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est « Avant les Jeux asiatiques du Sud-Est 2019, COI a ajouté le nombre de sports et d'athlètes. » Ministère de la Jeunesse et des Sports, ou Kemenpora, et le Comité Olympique Indonésien, ou COI, ont ajouté le nombre d'athlètes du contingent indonésien aux Jeux asiatiques du Sud-Est 2019 de Manille. Maintenant, le nombre est 841 personnes. Le total du contingent indonésien pour les Jeux asiatiques du Sud-Est de 2019 sera renforcé par 837 athlètes. Mais 10 jours avant le multi-événement de sport en Asie du Sud-Est, les chefs de mission ainsi que COI et Kemenpora ont changé le nombre de participants. C'est une course à obstacles qui fonctionne comme une branche contestée aux Philippines. L'Indonésie a envoyé 4 de ses athlètes. Cela a été dit par le contingent indonésien du chef de mission, Hari Warganegara, au centre de presse de Kemenpora à Senayan mercredi dernier. Le secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot Dewa Broto, est optimiste que l'ajout de cette nouvelle branche sport peut ajouter des médailles d'or. Gatot a ajouté que si l'ajout de sport ne doit pas faciliter l'autre pour remporter la médaille d'or. Mais les athlètes de course d'obstacles ont le potentiel d'obtenir une médaille. Avec l'ajout d'athlètes, le nombre de branches participées par l'Indonésie n'est pas 51, mais 52 sports. L'Indonésie préparera 59,6 milliards de rupiah de points. Le fonds doit couvrir le 1349 contingent composé de 837 athlètes, 52 gérants, 192 officiels, 69 officiels indépendants, 31 officiels supplémentaires et 168 personnes de siège social. C'est tout mon Indonésie.
Oh Tuhanku, berikanlah dia untukku. Jadikanlah cinta padaku, meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cintanya. bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu.
C'était la deuxième chanson intitulée « Denganku lebih indah » ou en français « Avec moi c'est plus belle » chantée par Saint Roméo. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Aujourd'hui, je vous présente le village touristique de Tampak Siri. Le 17 novembre dernier, le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, a publié le village de Tampak Siri, la régence de Gianyar à Bali, premier village touristique de l'île de Dewata développé par le bureau de représentation de la Banque centrale à Bali. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Peri Warjio, a déclaré que le village touristique de Tampak Siri est une forme réelle pour soutenir le progrès, en particulier l'économie nationale. Tandis que Trisno Nugroho, responsable de la Banque d'Indonésie de province de Bali, a déclaré que le village de Tampak Siri est l'un des nombreux villages de la province de Bali qui recèle un fort potentiel touristique. Là, il y a de divers types d'attractions, soit la beauté de la nature, la culture et les attractions du patrimoine historique. Pour cela, cette édition vous invite à connaître le village touristique de Tampak Siri. Au village touristique de Tampak Siri, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités touristiques. Vous pouvez visiter Subak Pulagan, dans la région de Hulu Tukat, Pekerisan, Tampak Siri, la régence de Gianyar. Le système d'irrigation en terrasse organisé par le villageois a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial. La beauté des marches de Subak est également une attraction touristique naturelle qui est belle. Vous pouvez également visiter la plantation de café Kintamani et goûter ce type de café. Le café Kintamani est classé comme type de café arabica. Ce café a un goût distinctif avec une saveur de fruits. De plus, le caféier dans la région de Kintamani est situé à côté de la plantation d'oranges car cette région est également producteur d'oranges. Dans ce village touristique se trouve également le palais présidentiel de Tampak Siri. Le palais est situé sur Jalan Tampak Siri, Manukaya, Tampak Siri conçu par R.M. Sudarsono. Le complexe du palais de Tampak Siri comprend quatre bâtiments principaux, à savoir Wisma Merdeka, Wisma Yudhistira, Wisma Negara et Wisma Bima. Chers auditeurs, si vous voyagez à la région touristique de Tampak Siri, visitez Pura Dalam Agung. Pura Dalam Agung existe déjà depuis le XVIIe siècle. À Tampak Siring, il y a également plusieurs autres temples, entre autres le temple de Tirta Empul, de Mengening, de Pengulingan et de Gria Tampak Siring. On a complété cette zone touristique avec une variété d'équipements tels que des salles de prière, des toilettes, des restaurants, des stationnements et des logements. Chers auditeurs, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à Tampak Siring, vous pouvez partir de l'aéroport de Ngurah Rai, Bali. Ensuite, vous pouvez continuer à prendre le transport terrestre pendant environ 1h15 minutes.
Apapun yang terjadi.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Adinda Salahita et Berry Likumahua, dont le titre est « Untuk Satu » ou en français « Pour un ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente des informations sur Nadiem Makarim dans la liste Time Next 2019. Chers auditeurs, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem Makarim, est entré dans la liste Time Next 2019 de la catégorie Leaders. Nadiem Makarim était la seule personnalité indonésienne à figurer sur la prestigieuse liste. Sur le site web officiel de Time, on a décrit Nadiem comme un homme d'affaires qui venait d'entrer dans les rangs du gouvernement du président Joko Widodo. Avant de devenir ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem était directeur général de Gojek. Dans un rapport publié sur le site web Time, Nadiem, actuellement ministre de l'Éducation et de la Culture, est bien placé pour former de futurs dirigeants en Indonésie. Selon Brian Harding, directeur adjoint du Centre d'études stratégiques et internationales, cité par Time, Nadiem est un homme d'affaires intelligent au sein du cabinet. On a indiqué qu'il jouerait un rôle important dans l'avancement du système éducatif de la jeune génération afin de faire de l'Indonésie la 16e économie mondiale. Chers auditeurs, Nadiem fait partie de la catégorie de leaders, tandis que les autres catégories sont les artistes, les défenseurs, les phénomènes et les innovateurs. Dans la catégorie de dirigeants, Nadiem est associé à d'autres personnalités de nombreux pays, tels que le président de Costa Rica Carlo Alvarado, la figure étudiante vénézuélienne Rafaela Requesens, le jeune homme politique de Hong Kong Edward Leung, et l'homme politique du rallye national, Jordan Bardella. Time a publié Time Sang Next depuis 2004. Time Sang Next est une nouvelle liste de continuation de Time Sang, les personnes les plus influentes, ou la liste des personnes les plus influentes lancée par Time depuis 15 ans. La liste était dominée par les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les acteurs et les dirigeants de fondations mondiales. C'est tout l'Indonésie en couleur.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak
siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan. Bualan cinta dan masa depan, engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée « Rindu ini » ou en français « Cet désir » chantée par Warna. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voynews.id. La suite, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Voice of Indonesia avec le magazine musical. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Sifia Aziza. Sifia a commencé à entrer dans le monde de la musique dès l'âge de 5 ans. Depuis son enfance, Sifia a participé à des festivals de musique dans divers pays avec sa chorale Elfa Singer. Sifia a fait son premier album de manière indépendante. Sifia a commencé à écrire toute son histoire sur un papier et l'a transformé en paroles de chansons aidées par Petra Sihombing en tant que son producteur. New York est son première chanson qui parle de confort. Selon la chanson, parfois le confort n'est pas toujours bien, mais cela peut être un piège. Dans cette chanson, New York est une parabole. Sifia rêvait de vivre à New York, mais elle craignait d'oublier de rentrer. Le mot « rentrer » interprète Sifia elle-même. Elle craignait d'oublier de s'aimer et d'être trop égoïste. Bon, chers auditeurs, voici Sifia, dont le titre est « New York ».
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie.
La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.